Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes Twitter F1 Team FR pour le 12e épisode de la Call Room. Dans cet épisode, nous avons débriefé le Grand Prix des Amériques de Formule 1. La F1 se rendait pour la deuxième fois en Amérique sur l'un des circuits les plus impressionnants de l'année, le COTA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle était au rendez-vous. Les folles remontées de Pérez, Leclerc, Alonso et Vettel nous ont amusés, tandis que la bataille pour la première place fut assez intéressante. Au programme de ce débrief, on a parlé du tour des équipes, avec du coup le cas Williams et l'arrivée de Porsche, mais vous aurez le débrief de toutes les équipes présentes pendant ce débrief. On a parlé évidemment du titre constructeur du Red Bull, qui le remporte le lendemain d'une triste annonce, celle du décès de leur fondateur, Dietrich Mateschitz. Et enfin, on a parlé, comme d'habitude, de notre fil rouge, à savoir la FIA qui continue de nous agacer. Avant de vous laisser avec le débriefing, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour plus de contenu comme celui-ci. Et moi, je vous souhaite un très bon sprint à tous et une très bonne écoute.
Je crois pas. Hein.
Non, c'est dans mes rêves, ça.
Ah, ok, et bah du coup, Alec, je t'en prie, vas-y.
J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, d'abord, du coup, on a eu les premiers roulages en F1 de notre pilote de F2 de l'Académie et futur pilote du team en 2023, du coup, Logan Sargeant, qui a fait des roulages, donc rien de concluant, hein, c'est normal, c'est les titres FP1 des pilotes qui découvrent. Sinon, en général, en week-end, on avait une voiture horrible qui ne freinait pas, qui ne tournait pas, qui ne faisait rien marcher. Elle savait faire une seule chose, aller vite dans une seule ligne droite sur le circuit. Donc, comment dire que c'était mal engagé. En qualif, Latifi nous fait une P20. Au bout d'un moment, on a l'habitude. Talbon, qui nous pond une P11 du futur, on ne sait pas d'où ça sort. Il a sorti un tour de dingue avec une vraie poubelle, sûrement l'un des pires circuits pour nous cette année. Et en course, Albon, il nous fait du très bon, quand même, avec la voiture. La majorité du Grand Prix, il est dans les points. Mais malheureusement, dans les derniers tours, il s'effondre avec les pneus. Et voilà, quoi. On perd les points et je suis un peu dégueu.
Ouais, mais est-ce que tu as été content de l'officialisation de Logan Sargeant?
Ouais, je suis content.
T'as quand même eu une grosse actualité pendant le week-end où finalement ta voiture était pas folle.
Ah, c'est ça a sauvé le week-end parce que sincèrement, les plans de la FW44, je vais les brûler. Hein. Cette voiture, je ne veux plus la voir.
Je commence à en avoir marre. Je suis en train de regarder les rythmes que vous aviez en course qui ont été publiés par notre cher ami F1 Data Analysis. Et Albon, il n'est pas dernier. C'est Latifi d'avant le dernier. Et après, t'as Ricardo et Guanyu Zhou quand même. C'est-à-dire qu'Albon est devant cette poubelle que Ricardo conduit. Alors, que soit c'est Ricardo qui fait que la voiture est une poubelle, soit la voiture en elle-même est une poubelle. Je vous laisse débattre.
C'est pas comme si Norris était le meilleur pilote de l'histoire.
Ouais, après, on sait tous que tu peux avoir des voitures différentes en fonction de. Enfin, sur la même équipe. Regarde
non,
Red Bull.
C'est pas comme Vettel et Leclerc.
En attendant, c'est une belle preuve que c'est Albon hein, qui porte la team à bout de bras au vu de la voiture depuis le début. Alors on a eu deux. Alors par contre, vraiment, il y a juste la voiture le problème hein, dans l'équipe. Hein. On a de bons stratèges, de bons mécanos, un bon pilote. Et franchement, encore une fois, ça montre que Albon est un très bon pilote et qu'il mérite une meilleure voiture l'année prochaine.
Bah, d'ailleurs, en parlant de meilleures voitures, tu peux continuer sur cette actualité quand même qui est incroyable. Porsche.
Attends, j'ai d'abord une question avant de passer sur Porsche.
Ah, pardon, vas-y, Manik.
Est-ce que je suis seul à trouver Sergan sur côté pour l'année prochaine?
En fait, alors, je veux mon avis, je ne vois pas comment on peut définir un pilote sur côté ou sous côté.
Pas sur côté, mais je le franchement, pour moi, actuellement, il y a meilleur que lui, que ce soit en AF2. Ou même un pilote de F1. Pour moi, je vois pas ce qu'il a fait pour mériter cette place en F1 actuellement.
Bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il est pilote d'Academy Williams. Et que, bah,
voilà, mais en dehors
et
de
que
ça,
pour
il
a, la, et que pour,
il a rien
et que
fait d'exceptionnel.
Pour, bah, quand même, c'est le meilleur rookie de la saison F2 pour l'instant. Il a montré de belles choses. C'est pas un mauvais pilote. Hein. Et puis, mais sur un tour, c'est un bon pilote. Hein. Il a tous ses coéquipiers, les a battus sur un tour en qualif. Hein, dans les...
Ouais, dans pas, les j'ai mis des réserves encore dessus.
Après, franchement, bonsoir à tous déjà. Personnellement, je disais pareil sur Zou l'an dernier. Et franchement, là, cette année, il fait le taf.
Ah oui, oui, je suis d'accord. Ouais.
Il fait le taf.
Ouais, il fait le taf.
Et encore, Zhou, il a fait trois saisons de F2 moyenne.
Regardez bien les stats de Guanyu cette saison.
Ouais, je suis d'accord. Il y a une grosse hype autour de lui. Lui, pour le coup, je dirais que c'est
Tu nous dis de regarder les stats, mais si on regarde les stats, Ocon, il est meilleur qu'Alonso, non?
Pas faux.
Voilà.
Merci.
Ah, voilà.
Si je regarde le rythme d'hier, oui.
Mais par exemple, catastrophique.
Globalement, Guanyu il est quand même souvent derrière Bottas. Bottas, à part en qualif où parfois il peut se rater.
Mais les gars, c'est Bottas quand même.
Après, c'est normal. On peut pas lui reprocher.
T'as Bottas. T'as Bottas. Et puis, les gens oublient vite que c'est sa première saison quand même. Il faut qu'il s'y mette, quoi. Il faut voir ce qu'il donne la saison prochaine.
Ok. Mais bon, moi j'ai mon avis sur Guanyu Zhou. Je pense que c'est un peu trop sur le côté. Mais bon, bref. Continuons sur Logan.
Ouais.
Du coup, pour moi, j'ai encore des réserves sur lui pour l'année prochaine. Franchement, ça sera mieux que la Tifi. Je dis pas le contraire, mais je suis pas convaincu.
Franchement, je pense qu'il peut faire ses preuves. De toute façon, on va le revoir rouler vendredi en FP1 et pareil à Abu Dhabi. Il fera le test de John Pilote et puis on verra ce qu'il donne. Déjà, la prochaine étape, c'est qu'il réussisse bien son week-end de F2 à Abu Dhabi et qu'il finisse bien dans le top 5 du classement F2.
Ouais,
parce que sinon, je crois l'option, si Logan n'a pas sa super licence, c'est un Ricciardo ou un Schumacher. Et personnellement, je n'ai pas envie que ça arrive.
Oui, parce qu'on le répète, pour l'instant, Logan Sargeant n'est pas garanti de rentrer dans la Williams.
C'est pour ça qu'il n'a pas été annoncé officiellement. C'est juste Joss Capito qui a dit en interview qu'il est pilote 2023 s'il a sa super licence.
Et pour qu'il ait sa super licence, il faut qu'il finisse dans les 5 premiers du classement F2. Pour l'instant, il est 4e, ou peut-être 3e, parce que je ne sais plus. Je vais regarder vite fait.
Du coup, comme il va faire des séances de FP1, il gagne. Enfin, une séance de FP1 est égale à un point en plus sur la super licence. Donc, il en fait deux. Du coup, il gagne 2 points. Et je crois qu'il faut, il peut maintenant finir que 6 ou 7, je crois.
Je crois que j'ai vu l'info, t'as raison. Je crois que j'ai vu qu'il fallait qu'il finisse top 6.
Ouais, non, mais j'ai raison, je le sais.
mais les
chevilles du mec.
Même top 6, c'est pas forcément garanti, puisqu'il a 133 points, il est 4e. Et en fait, Doohan est derrière à 126 points, suivi de Daruvala à 125 points, suivi de Lawson à 122 points. Sachant qu'il y a deux courses, tu peux te retrouver avec un week-end, il faudra vraiment que ça soit mal barré, mais tu peux te retrouver avec un week-end où Sargeant te marque 0 points.
Sincèrement, vu qu'en F2, les qualifs, c'est quand même important, tu vois. Surtout à Abu Dhabi, ça risque d'être important. Sargeant, il est bon dans ce domaine-là.
C'est vrai.
À moins qu'il lui arrive vraiment des merdes en course, qu'il se fasse harponner, ce serait pas la première fois. Qu'il ait un problème mécanique, ce serait pas la première fois. On espère juste que ça arrive pas. Hein.
C'est vrai. Mais du coup, parce qu'il faut qu'on enchaîne sur les autres équipes, est-ce que tu peux nous parler de Porsche? Parce que tout le monde t'attend là-dessus, là. Dis-nous, quel est ton vrai ressenti sur cette news? Et raconte-nous aussi cette news, pour que tout le monde soit au courant.
Alors du coup, la news sort de Zigo Sport. Une news à prendre avec d'énormes pincettes, parce que de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, c'était sorti de la bouche d'un des mecs de Zigo Sport qui dit souvent 100 nouvelles infos par jour et qui n'est jamais très fiable.
Est-ce qu'on peut demander à notre baromètre officiel, à savoir Sofiane, Zigo Sport sur l'échelle de Motorsport Italia à Amus, c'est combien?
Je crois qu'on n'est pas loin de Motorsport Italia, franchement. c'est catastrophique. Et même voilà, c'est au niveau, voire pire que Motorsport Italia, franchement.
Bon.
Non, franchement.
Voilà, donc de toute façon, on sera vite mis au courant cette semaine, parce qu'il a dit que c'était pour le Grand Prix du Mexique. Du coup, on va vite revenir sur l'info. Porsche serait en train de discuter avec Williams pour racheter 50% de l'équipe et devenir motoriste en 2026. Donc pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a. Alors, il y a plusieurs points que je trouve positifs ou négatifs. Voilà. Le positif, c'est qu'on va ne plus être une équipe B de chez Mercedes, on sera vraiment on aura notre propre moteur, donc on sera bien, on aura beaucoup d'argent, on espère, et du coup on sera un peu plus indépendant, ce qui peut être mieux pour se développer. Oui, Sofiane.
Il y avait pas une, en fait j'y pense, mais il y a pas une deadline pour les nouveaux motoristes en 2026? C'était pas le 15 octobre.
Et... Ça, je sais pas.
Et je crois que enfin, du coup, Porsche, ils l'ont raté.
Si, c'est ça, oui. Voilà. C'est ça, c'est quand ils ont voté pour les moteurs, c'était la dernière limite.
Et ouais, et du coup,
je crois... Ça veut dire que ça a été déjà voté et que c'est resté secret, alors. Ou alors, ça a du tout été fait.
Ils vont utiliser des moteurs Audi.
Ah oui, il y a aussi ça. Où ça parle d'utiliser des moteurs Audi badgés Porsche.
Ou alors,
étant donné que c'est Porsche, on peut aussi imaginer, étant donné que la Formule 1 avait vraiment envie que Porsche rentre, peut-être que la Formule 1 peut essayer de trouver des dérogations. En ce moment, ils sont pas mal à trouver ce genre de choses, donc... Donc peut-être. Mais bref, pardon William, vas-y, continue.
Vas-y, donc, et du coup, moi, les côtés que je trouve négatifs... C'est au niveau... Le pire qui pourrait arriver, c'est que Porsche rachète à 100% l'équipe, en fait. C'est ce truc que je... C'est qu'ils viennent et tout, qu'ils s'installent. Même si on doit s'appeler Williams Porsche, ça, je m'en fous, mais... Et si ça doit amener à un rachat complet de l'équipe, je serais pas d'accord. C'est le seul truc qui me fait peur avec l'accord.
Moi, je peux juste donner mon avis vite fait.
Vas-y.
Moi, ce qui me fait un peu... Enfin, ça me fait un peu pleurer de voir le dernier garagiste en Formule 1, quitter définitivement l'aventure. C'était un peu le cas quand ils ont vendu la famille Williams, quand ils ont vendu c'est des Américains qui vous possèdent.
Dorilton, oui.
Et ça m'avait un peu fait ça, mais bon, ils avaient promis qu'ils garderaient l'esprit Williams, etc.
Et
là, vendre à Volkswagen, c'est plus garagiste, quoi.
Et Volkswagen qui sont connus pour, dès qu'ils rachètent un truc, ça perd tout de suite son âme.
Ouais, demande à Lamborghini.
C'est ça, donc on espère... C'est pour ça que ça me fait peur, en fait, ce truc. C'est cette partie-là. J'ai peur que l'équipe perd son âme d'ingénieur, de la petite équipe familiale et tout, pour devenir une équipe de constructeurs de plus, quoi.
Non, mais oui, j'espère juste que ça sera pas comme ça. Maintenant, on va suivre. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de certitude, donc on reviendra, Williams reviendra vers vous dès qu'il a des infos. N'hésitez pas à le suivre, il va bien s'entraîner sur le sujet. Merci beaucoup Alec pour ton débrief. On va passer à quelqu'un qui a passé un week-end de merde.
Ouais, exactement.
Ça pouvait être un week-end correct. Et puis, ça a fini sur un bon week-end. Et puis, ce matin, pas du tout.
Ouais, Alpine, bon, vas-y. Déjà, ce week-end, Ocon, il avait un nouveau plancher, la version B du plancher qu'on a introduit à Singapour. Alonso, il ne l'avait pas. Et pour le coup, ça peut peut-être expliquer la performance d'Ocon, parce qu'il était vraiment, il y avait vraiment un grand écart, que ce soit en qualif ou en course, comparé au niveau du rythme.
Ce qui me fume juste sur ça, c'est que pendant, je crois que c'était les FP2, t'avais Montagny qui disait Alpine c'est trop bien, à chaque fois qu'il ramène une pièce ça marche super bien et tout, et là hop karma, la pièce elle fait que de la merde, super, trop bien.
Puis il y a eu la course, bon je me disais ça allait bien se passer, la safety car qui vient pile quand on devait s'arrêter, c'était parfait. Alonso qui dépasse à la relance Gasly, bon après il y a eu le truc Stroll. Je me demande comment ça fait que la voiture elle est encore intacte. Bon, après Alonso, il a habitué des trucs comme ça qu'on a vu avec l'Azerbaïdjan 2018 où la voiture était totalement détruite. Il perdait 5 ou 6 dixièmes au tour avec les pertes aéro. Il a quand même fini P7, je crois, en 2018. Et il a continué et il est monté jusqu'à la P7. Il a perdu la P6 dans les derniers tours face à Norris. Puis bon. Il y a eu. Ah oui, il faudrait aussi parler. Attendez. Il y a eu. Bon, Ocon, la stratégie, on s'est arrêté trop tard. On a fait un double dur. Puis après, on est allé dans les médiums. C'était vraiment trop tard, il remontait, mais. Enfin, trop tard. Merci la FIA d'avoir permis à Ocon de tomber les points. Mis ça de côté la P7. Après, il y a eu la FIA, voilà, qui ont accepté le recours. De Haas, qui était en retard de 24 minutes quand même. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont pu accepter ce recours. Et ce recours qui était sur Alonso et sur Perez. Pour le coup, Alonso, ils lui ont mis 30 secondes, vu qu'il n'avait pas mis de drapeau noir et orange. Et Perez, ils n'ont pas mis de pénalité, vu qu'ils ne considéraient pas que c'était dangereux. Pour le coup, c'est vrai qu'un rétroviseur, c'est plus dangereux qu'un bout d'aileron, mais un 30 secondes à aucune pénalité, c'est clairement scandaleux. Enfin, je savais qu'il allait avoir une pénalité, mais quand je me suis réveillé, le 30 secondes, j'ai dit, c'est un truc parodique. Non, pas du tout. Du coup, ouais, Alonso P15 et Ocon P10. McLaren qui se rapproche de nous au championnat. Et si la pénalité là coûte la P4 au championnat, ça va faire grincer les dents.
D'ailleurs, est-ce que tu as des infos sur l'histoire du recours? Est-ce qu'il y a des chances que ça n'aboutisse pas ou... Parce que moi, enfin, je me fais l'avocat du diable, mais je suis as. J'y vais immédiatement.
Non, mais
les mecs, on leur a dit trois fois, Magnussen s'est fait pénaliser dans deux ou trois fois, je sais plus, pour clairement les mêmes situations que Perez, et on lui dit rien. Enfin, et là, Perez, on lui dit rien, et puis Alonso, du coup, bah, on lui dit quelque chose, mais bien plus tard. En vrai, moi, je suis as, je pète un câble quand même, c'est pas normal.
Non, mais as, ils ont totalement raison. Tu regardes cette saison, la FIA, elle est inconstante dans toutes ses décisions. Leclerc, qui avait la même chose, qui avait un bout d'aileron, ils ont laissé passer.
C'était quand?
C'était à Silverstone, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Ah oui, enfin, il est parti, immédiatement.
Il est parti un autre tour, je crois, le bout d'aileron.
Ouais, ils ont même pas eu le temps de lancer une enquête. C'est même pas comme Magnussen, le truc est resté, ou Perez, le truc est resté longtemps quand même.
Perez, il est resté combien de temps?
Ouais, pas. 3-4 tours quand même.
Ouais, bon.
Après, c'est pas énorme. Par exemple, Magnussen, tu vois, il est resté 3-4... Enfin, il aurait pu rester 3-4 tours. Je pense que la FIA aurait pris la même décision. Ils avaient l'air de... Très rapidement, ils ont lancé une enquête très vite. Très rapidement, ils l'ont fait chier.
Bref. Non, mais surtout, ce qu'ils avaient dit, c'était le fait que c'est le fait qu'elle tombe, qu'elle soit dangereuse, tu vois. Genre, c'est même pas le fait de rouler... Attends, là, je comprends. Avec Alonso, sur le rétroviseur, ils ont bien dit que c'est le fait que le rétroviseur tombe.
Mais ça, je comprends pas, parce que ça, vraiment, c'est du coup deux
fois de mesure. C'est même pas le fait de rouler sans rétroviseur qui pose pas de problème, vu que la voiture est considérée légale à la fin de la course. Ils l'ont considérée légale à la fin de la course, mais vu que c'est tombé, ils ont préféré mettre la pénalité de 30 secondes pour remplacer l'arrêt au stand qui devait être fait sous drapeau orange, drapeau noir, qui a orange, été grandi. Ouais. Du coup, ils ont juste réparé leur erreur après la course suite à un recours qui a été fait trop tard.
Ouais, bah, c'est vraiment incompréhensible. Enfin, on va en reparler de manière de la FIA, mais cette inconstance, quand même, elle est. Enfin, c'est le fil rouge de notre émission depuis le début. Mais là, ça devient grotesque, c'est une blague en permanence.
Enfin, j'ai jamais vu, ça fait grosso modo vraiment 10 saisons que je suis la F1 à 100%. J'ai jamais vu une saison où les décisions étaient énormément inconstantes. Il y a de la constance, toutes les courses, il y a des polémiques, j'ai jamais vu ça. On avait dit Massi, etc., mais Massi, c'était pas le problème, c'est juste une partie du problème. Le problème de la FIA, il est plus grand que Massi.
Ouais, bah là, par exemple, ils ont dit qu'ils allaient laisser un seul directeur de course. Ça change rien, en fait.
Ça change rien.
Ils ont mis un seul directeur de course parce que l'autre a été écarté suite à l'incident de la grue. Hein.
Ramenez Michael.
On va s'embrouiller, toi et moi, commence pas.
Sofiane, tu me dis que tu vas peut-être bientôt manger. Tu veux en parler maintenant? Tu veux parler maintenant ou tu veux? T'as le temps?
Bah ouais, si tu veux, je parle maintenant. Comme ça, c'est fait et puis voilà.
Ouais, bah après, comme tu veux.
Bah let's go, ouais, cinquième titre constructeur après une course incroyable. J'ai même pas les mots. Enfin, genre même moi, j'ai fait genre dans mon live tweet. Même moi, j'y ai pas cru que Max gagne, mais la voiture et Max étaient clairement au-dessus en course, du moins. Quasiment, enfin sur tous les pneus, même un peu moins le pneu hard par rapport à Lewis et Mercedes, ils sont super forts par rapport à ça. Mais sinon, course menée de main de maître, à part l'arrêt au stand où bon, ben, ça arrive une fois par saison. L'an dernier, c'était à Monza, cette année, c'est ici. Bon, ben là, heureusement qu'on a la voiture et le pilote pour combler ça. Et Checo qui fait une bonne course. Dommage pour l'aileron, pour son move sur Bottas. Je trouve que c'est franchement, c'est pas nécessaire. C'est une Alfa Romeo. Il a juste à attendre le virage 12 et puis l'a dépassé. Quoi. Donc, c'est assez dommage par rapport à ça. Mais sinon, il avait un bon rythme. Donc, franchement, c'est super positif. Et puis, dimanche prochain, c'est le Mexique. Donc ça va être encore mieux. Et puis, franchement, tous les voyants sont ouverts. Et puis, let's go, quoi.
Bel hommage aussi pour Didi d'avoir remporté à ce moment-là le championnat constructeur. C'était sûr que vous allez remporter, hein, il n'y avait même pas de débat, mais bel hommage de le faire maintenant et puis de se dire bon bah il aura pu au moins avoir le titre de Max, mais surtout se dire que pour Red Bull remporter de nouveau un titre de constructeur. Le lendemain du décès de Matesic, c'est quand même quelque chose.
Ouais, clairement, il y a eu les déclarations de Toto qui disait que je dis pas qu'il est heureux que Red Bull gagne, mais parce que lui, il a vécu avec Niki Lauda et dans une interview, il disait que c'est bien que Red Bull gagne par rapport à ça. Et merci Toto, ça fait plaisir de lire ça. Et par rapport au décès de Matesic, je trouve que l'image la plus marquante, c'est vraiment les pilotes et tous ceux donc de la famille AlphaTauri et Red Bull qui sont mis devant juste avant l'hymne, je crois, pour l'hommage. Il y avait 8 pilotes, il y avait Marco, il y avait Tost, il y avait plein de gens. Et je trouve que il y a pas plus belle image pour définir l'influence et ce qu'a fait Matesic pour le sport, pour Red Bull. Donc, franchement, bel hommage, belle victoire, c'est vraiment parfait. Quoi.
Et même à un moment, il y avait Ricciardo et Sainz à côté de Horner, et vraiment, je trouvais ça.
Ouais, il y avait Albon aussi. Ouais. Et il y avait Albon, Vettel. Enfin, vraiment, tous ceux qui sont là grâce à lui.
C'est ouf quand même l'influence que ce mec a eu en F1, on se rend pas compte parce que. Il a entre guillemets que deux équipes. Déjà, dire j'ai une équipe.
C'est déjà énorme. Bonjour.
Et il en avait deux. Donc quatre pilotes. Et puis il y a combien de pilotes sur la grille qui sont actuellement des anciens pilotes Red Bull?
Il y a 8.
T'avais dit 9 hier. C'est 8.
Ouais, 8. Ouais, je crois que c'est 8. Ouais. 8. Donc c'est 40% de la grille. Quoi. C'est énorme. Donc voilà. En plus, il y a un circuit. Enfin, il a fait le. Grâce à lui, on a le retour du Red Bull Ring. Avant, ça ne s'était pas comme ça, mais voilà. C'était vraiment. C'est un empire qu'il avait bâti, quoi, alors qu'il partait d'une boisson énergisante, tu vois. Donc, vraiment, c'était vraiment un fan de sport auto et tout. Donc, franchement, gagner là, c'était vraiment le meilleur moyen.
C'est ouf. Énorme. C'est un énorme travail qu'il a pu réaliser. Et du coup, on en a parlé un peu entre nous de la suite pour Red Bull, l'entreprise. Est-ce que tu as quelques infos là-dessus sur comment ça va se passer? Qui devient le propriétaire de Red Bull? Est-ce que ça change quelque chose sur vos plans à vous? Je sais qu'il y avait des débats, notamment avec l'introduction de Porsche dans votre capital, qui était un peu lié contractuellement avec la relation qu'a Matesic avec Red Bull et potentiellement son décès. Est-ce que tu sais un peu plus comment ça va changer quelque chose?
Alors, il y a eu pas mal de rumeurs sur ça. Il y a eu Automotor und Sport qui avait dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi Red Bull deviendrait du coup 100% thaïlandais. Ouais. Ça, c'est à voir. J'ai du mal à le croire, mais bon, ça, c'est à voir. Par contre, dans le plus concret, il y a son fils, donc Marc Matesic, qui a été invité par Red Bull au Grand Prix d'Italie, je crois. Donc, c'est vraiment pour qu'il ait. Enfin, je pense que ce sera lui qui va reprendre le flambeau, quoi, qui aura vraiment pas autant d'influence, mais qui va reprendre le flambeau de son père. Donc je pense qu'on s'oriente vers une reprise par son fils. Et j'avais vu une interview de Christian Horner qui disait que quoi qu'il arrive, Red Bull continuera. C'était la volonté de Matesic. Donc par rapport à l'avenir, je me fais pas de soucis. Maintenant, il faudra voir ce qui va se passer au niveau de l'actionnariat. Donc là, ça, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer.
Ok. J'espère que pour vous, rien ne changera. Ça serait marrant quand même d'entendre... Enfin, marrant. Non, peut-être pas marrant, mais c'est pas le bon terme. Mais ça serait étonnant d'entendre l'hymne thaïlandais au lieu de l'hymne autrichien. Je commence à en avoir un peu marre de cet hymne tout le temps. Là. Il me saoule.
Bah, l'hymne thaïlandais, moi, je veux bien.
Ouais, mais...
Mais pas venant de Red Bull.
C'est vrai, ça, j'ai oublié.
Bah ouais.
J'ai rien contre les Autrichiens, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'était comme l'hymne britannique suivi de l'hymne allemand, j'en pouvais plus hein, au bout d'un moment. Et là, l'hymne néerlandais suivi de l'hymne autrichien, ça commence à un peu à me gaver.
Il est bien l'hymne néerlandais, t'aimes pas ?
Non,
moi, je pourrais. C'est genre 100 fois de plus encore. Hein.
Ouais, je le déteste.
En mode de 98 à 2004, on faisait pas souvent l'hymne
néerlandais. Non, pas assez à mon goût, je trouve. Mais en même temps, j'ai pas pu en profiter énormément. Je suis arrivé qu'en 2002, donc j'ai connu que 2 ans de suprématie germano-italienne. Donc malheureusement, non. Mais bon. Merci en tout cas, Sofiane, d'avoir.
D'ailleurs, juste.
Par contre, je vais dire un truc. Je crois que Sofiane va être d'accord avec moi. La bataille Hamilton-Verstappen, elle bouffe celle de Leclerc-Verstappen.
Ah, mais bien sûr, mais bien sûr.
Non, mais... Je suis désolé.
Mais lui, il me parle d'une bataille qui a duré genre 2 courses. Il compare à une bataille qui
est... Bah, franchement, elle a duré 2 courses.
Elle a duré 2 courses, frère. Il n'y a même pas de bataille, elle a duré 2 courses.
On a carrément oublié la bataille Verstappen-Leclerc.
Mais
elle a duré que 2 courses.
Mais de quoi tu me parles?
Elle a duré que 2 courses.
Et ta voiture, elle gaze 40 km.
La voiture, elle a fait, elle a fait, allez, salut, vas-y, continue à pied. La voiture, elle fait, continue à pied, c'est bon.
Tu laisses pas découvrir. Ah oui, la bataille Hamilton Verstappen hier était plus épique que ce qu'on a eu avec Leclerc Verstappen.
Mais bien sûr.
Mais de quoi
la
tu parles?
La bataille, c'est Leclerc contre son ingénieur et son équipe. Ça, c'est
mais non, mais non.
De quoi tu me parles? Leclerc n'avait pas de pneus. Leclerc avec sa voiture qui n'est pas capable.
Leclerc, il a pas de bataille. Il y a rien du tout.
Il a bien plus tenu et fait de problèmes à Verstappen que ton pote Lewis. Arrête. Lewis, il était là en train de se plaindre. En train de se plaindre des sorties de piste.
Ah, il est sorti
Verstappen.
Au virage 1, virage 2, virage 3, virage 4.
Ouais, c'est bon, stop.
Ça rage du côté italien.
Mais non, ça rage. Je me suis déjà battu 15 minutes avec mon téléphone, alors oui, j'ai la rage.
J'ai la rêve du retour de Merco l'an prochain. Comme ça, il y a ce trio de tête.
Ouais.
L'esprit, ça va être une dinguerie.
Non,
on va ajouter ce petit côté humour, nous. Avec nous.
Non, mais ça serait... non, mais franchement, l'an prochain, bataille à 3, ce serait fou, tu vois. Enfin, bon, j'y crois pas une seule seconde, mais ce serait franchement pas mal. Ce serait bien, tu vois.
Tant que vous aurez votre vitesse de pointe qui est absolument incroyable et dégueulasse, tellement elle est impressionnante, enfin, on pourra rien faire. En fait, sur les circuits vous pouvez avoir de l'appui, enfin, on doit avoir de l'appui, vous êtes juste imbattable.
Mais en fait, c'est, comment dire, surtout avec ces règles-là de 2022, la chose la plus importante en course, c'est la gestion des pneus et la vitesse de pointe. Red Bull a les deux. Ouais, Mercedes, ils en ont un des deux. Et Ferrari.
Williams, on en a un des deux.
On n'a rien, nous. On n'a plus rien.
Même nous,
on a une meilleure vitesse de pointe.
Depuis la Belgique, on est à poil, on roule à poil. On n'a plus rien.
Encore, je trouve que Leclerc a dépassé Pérez, quoi. Donc, c'est pas.
Pérez avec un aileron cassé.
Ouais, mais
tu sais que l'aileron cassé, il
est cassé dans la ligne droite, il fait rien.
Non, mais.
Si on regarde Silverstone.
Non mais ça on va revenir dessus, mais j'avoue que la perte de Leclerc quand même elle est à souligner sur ce Grand Prix, parce que franchement cette voiture, enfin il sur la fin de course quand même il a réussi à manager ses pneus, parce qu'il s'est pas fait, il n'a pas eu le scénario comme au Japon, et j'ai cru que ça allait arriver d'ailleurs, où Pérez revient et nous bouffe. Non, il a quand même tenu ses pneus, je sais pas comment il fait, franchement il fait des miracles avec une voiture qui a vraiment des gros problèmes systémiques. Enfin,
Trouve la course de Vettel et Alonso plus impressionnante que celle de Leclerc.
Moi, j'ai mais c'est surtout que Leclerc, il a eu une chance énorme avec la safety car.
Pour une fois.
C'est ce que j'allais dire.
Après la régulière, il finit P5.
Pour une fois.
Mais il m'a dit
que c'est ce qu'il faut dans une course. Et d'ailleurs, je repense à Mercedes en parlant de chance, mais je pense à Hamilton. Il a vraiment tout en sa faveur, tu vois. C'est-à-dire, premier stint, Max, il a 6 secondes d'avance sur lui. Enfin, il a un pit stop de 11 secondes. Enfin, genre,
Leclerc. Non, sur le premier stint, sur le premier arrêt, il fait pas un arrêt de 11 secondes, le Verstappen.
Non, mais
ça va être même devant.
Je parle d'après dans la course. En fait, Hamilton, il a eu toute la chance du monde à cause du malheur des autres, et il finit quand même deuxième, tu vois. Et que deux secondes devant Leclerc. Enfin, je trouve que enfin, je sais pas ce que t'en penses, Malik, mais je trouve que c'est assez révélateur de... Ben, Mercedes, ils sont quand même assez loin, quand même.
Ah, mais ça, oui, ça, je suis d'accord. Comme je disais hier pour avec les pistonnets, c'est que pour Mercedes gagne cette année, il faut des gros concours de circonstances. Sans ça, Mercedes ne gagnera pas, clairement. Il faut soit un abandon des Ferrari, soit un abandon des Red Bull, ou qu'un des deux se foire. Sans ça, Mercedes ne gagne pas à la régulière.
Mais c'est, oui, fin, genre, quand tu dis concours de circonstances, c'est carrément des abandons, parce que bon, on a vu Leclerc, il part 12, Perez, il part 9, Sainz, il se fait arraquerir par Russell. Russell, d'ailleurs, il n'avait aucune vitesse sur ce Grand Prix. Verstappen, il a un pit stop de 11 secondes. Enfin, franchement,
Mercedes est revenu sur Ferrari et Red Bull, mais pas suffisamment pour prétendre à la victoire à la régulière.
Ouais, je suis d'accord.
Non, mais par contre, c'est vrai que votre comeback de... Enfin, si tu m'avais dit en début de saison, Mercedes, ils seront en tête d'un Grand Prix au bout d'un moment, et Verstappen et Hamilton vont se battre pour savoir qui va gagner le Grand Prix, je t'aurais pas cru.
Ben ça, c'est sûr, personne n'y aurait cru. Quand tu vois parce comment vraiment, la voiture a sauté dans tous les
loin,
sens, mais c'est ça.
Tellement loin.
C'est ça.
Enfin, bref.
Non, il n'y a, a pas que du négatif dans la saison.
Non, non, du tout, du tout. Mais de manière, on fera, je pense qu'on. Après cette saison,
on fera
un débrief par.
Je sais pas, mais ça correspond un peu aux autres équipes à moteur Mercedes. Par exemple, McLaren et Aston, ils étaient un peu à la ramasse au début d'année. Je sais pas si c'est un rapport avec le moteur.
Évidemment, William, ça a changé. Hein.
Bah aussi frère.
Ah si c'est
ça. On paye 19 au lieu de déjà.
On a pas d'aéro, c'est tout.
Ouais, mais alors c'est un rapport avec le moteur, mais c'est plus un rapport avec d'autres moteurs puisque vous avez quand même 4 voitures qui avec aucune évolution ont perdu en performance. Et c'est les As et les Alfa Romeo. Et quand tu regardes par exemple le replay du Grand Prix de Bahreïn où la As est en train de se battre avec la Mercedes et de se dire que maintenant elle joue les fonds de tableau parfois avec des miracles, elle arrive à se qualifier en Q2 et à jouer les points, mais c'est rare. Et c'est juste parce qu'elle n'a plus de moteur en fait. Moteur Ferrari, ils ont dit c'est ciao.
Après, il y a le moteur Ferrari, il y a aussi la capacité de développement de Haas et Alfa Romeo, c'est les plus limités, je trouve, dans ce domaine-là.
Je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a des équipes qui ont très peu évolué et qui se retrouvent quand même devant ces équipes-là. Et je pense notamment à Williams, qui en fait a apporté une évolution, mais n'a pas non plus énormément évolué. Aujourd'hui, la Williams, sur certains Grands Prix, elle peut être plus performante qu'une Alfa Romeo tout au long d'une course.
Ouais, je dirais que c'est surtout Albon hein, qui domine la voiture.
Oui,
mais normal, ton deuxième pilote, c'est Latifi.
Ouais,
c'est
sûr.
Ça peut être que lui.
Ouais, d'ouf.
Albon, il roule la voiture à 110% de ses pertes.
C'est pareil avec Norris.
C'est ça.
Hein. Enfin, je sais pas si vous avez parlé de Ricciardo, mais.
Ben moi, j'ai regardé la bataille Ricciardo là-dessus.
Non, mais
franchement, d'ailleurs.
Et moi, j'ai pris mon pied.
D'ailleurs,
c'est simple. McLaren, c'est les Williams du midfield.
McLaren, mais c'est quoi le projet en fait?
C'est mettre des écrans sur la voiture pour avoir plus de sponsors.
On n'a même pas vu, on n'a plus eu un seul onboard de
McLaren. Ouais, McLaren, c'est essayer de mettre des bâtons dans les roues d'Alpine.
Ouais, c'est juste ça.
Ouais, tout ça pour faire. Tout ça pour
moi, j'aurais. Vas-y.
Non, mais vas-y, Red Bull.
Non, c'était juste pour bash McLaren, mais vas-y, c'était pas intéressant.
Ah, mais moi aussi, hein.
Lâchez-vous sur McLaren.
Non, mais en fait, c'est vrai que. On parle jamais de McLaren parce que non mais on parle jamais de McLaren parce qu'on a personne pour en parler, mais franchement j'aimerais vraiment avoir j'aimerais comprendre quel est le projet McLaren, parce que Norris disait dans des interviews et je crois qu'il le dit même dans Beyond the Grid à un moment donné que son objectif c'est 2024-2025 de pouvoir jouer des victoires. Mais les gars, enfin McLaren, je comprends pas comment ils sont toujours motorisés par Mercedes, donc à moins que Mercedes décide de changer de politique et se retrouver comme à la belle époque où ils avaient que McLaren à sponsoriser. Et ben McLaren avait un très bon moteur, une très bonne voiture, ils gagnent des courses, mais ça va pas arriver demain. La voiture, elle a quand même des problèmes hyper importants et tu sais pas vraiment où est le projet. Les évolutions, il y en a, mais il y a rien qui change vraiment.
Enfin, déjà, il y avait Toto Wolff qui disait que d'ici 2024, il y a 5-6 équipes qui joueront la win tout le temps.
Mais
oui, ça, j'y crois ça ou pas?
Mais ça, j'y crois zéro.
Non, moi, j'y crois pas du tout. Bien sûr.
C'est impossible.
Moi, il n'y a jamais eu ça dans le champion du monde. Il n'y aura jamais de la vie. Il n'y aura jamais de la vie, toi.
Mais je pense, Charles, c'est à cause de toi. Genre, tu faisais que dire, ouais, le projet Aston. Ben là, projet Aston, il commence à carburer pas mal.
Ne critiquez plus les projets. On voit ce qui se passe.
Non, mais du coup, je pense que, Charles, il faut que tu commences à dire le projet McLaren, et ça ira mieux, tu vois.
Peut-être que je vais commencer à questionner le projet Ferrari pour voir si on va gagner.
Questionner le projet Williams, par pitié.
Non, par contre, on peut questionner le projet Haas, parce que quand on parle des équipes un peu à la con, style McLaren Haas qui a un nouveau sponsor et qui va frôler avec les limites du budget de cap. Donc, je crois que si je comprends bien, ils auront autant de budget qu'Alpine.
Comme par hasard, c'est un sponsor de transfert d'argent.
N'empêche que là, Ricardo, si demain tu ne vas pas aller chez Haas, non, mais je comprends pas. Ricardo, demain tu lui dis, une équipe qui a autant de budget, alors certes, ils n'ont pas les infrastructures, mais ils ont autant de budget que Alpine et tout, il veut pas y aller. Bah, c'est bon. Ricardo,
après, mec, je suis désolé, hein, mais Ricardo, c'est le Ronaldo de la F1. Hein. Personne ne le veut.
C'est même
personne.
Attends, respecte quand même Ronaldo. Non, s'il te plaît. Un petit peu, hein, quand même. Un peu de respect.
Pas vu que Steiner, il dit si Ricardo veut venir, il a qu'à m'appeler et puis on parle, tu vois. C'est vraiment. Enfin, moi, je lis, je crois que c'est Ricardo qui veut vraiment pas. Rouler chez AC Williams, et je trouve que c'est. Mais ça n'a, fait, genre, c'est, ça n'a aucun sens.
Je préférerais le troisième pilote Red Bull. Quoi.
Mais ça
n'a aucun sens.
Mais les gars, les gars, on parlait de McLaren. En fait, il faut savoir que McLaren, l'écurie, elle est morte depuis 2013.
Ouais.
Regardez la progression qu'ils font McLaren. C'est fini. Elle est morte déjà compétitivité depuis 2013 et économiquement depuis le Covid. Il n'y a plus un
après, dans après le terme mort, c'est quand même assez.
Ouais, mais non, mais mort, je veux dire, je ne les vois pas revenir dans la lutte pour le titre. Hein.
Ah, mais oui.
La capacité économique qu'ils ont, les hommes qu'ils ont, je suis désolé, ils n'ont pas les infrastructures pour ça. Hein.
Ils ont 450 sponsors.
Non, mais tu peux avoir 450 sponsors, mais s'ils te rapportent chacun. Genre 500 000 euros, je suis désolé.
Mais 500 000 plus 500 000 plus 500 000 et on arrive.
Bien sûr, oui.
T'es le budget cap, Alec. Hein.
Ouais, t'as vu.
Il y a le budget cap aussi.
C'est pour ça que je gère le budget.
Non, il n'y a pas le budget cap. Ça existe pas.
Le budget cap, c'est
ils vont que venir. Ça existe pas, le budget cap, les gars. Je sais pas de quoi vous parlez.
Non, ça existe pas, mais oui.
Non, on parle pas du budget cap. Par respect pour Matešić. Pour Matešić, pardon, on parle pas du budget cap.
Sujet tabou ce soir.
Non. Par contre, on a complètement perdu le fil de l'émission et ça serait bien qu'on reprenne correctement parce que on a dit qu'on faisait qu'une heure et on a déjà carrément dépassé les 45 minutes alors qu'on n'a pas encore parlé ni de Ferrari ni de Mercedes. Mercedes, vu que t'as fait deuxième meilleur week-end derrière celui de Red Bull, on parle juste de Ferrari même s'il y a pas grand-chose à parler. Accident Sainz. voilà, et Leclerc qui arrive à faire une très très belle remontée alors que cette voiture mange ses pneus comme pas possible. Moi je dis chapeau bas, et heureusement qu'on a Leclerc qui motive un peu les troupes et dit les gars, on peut pas rester dans cette situation, faut que de 2023 on y avance, parce que franchement, j'entends personne le dire à part lui et Mekes, ça commence à me faire peur cette affaire. Mais bon,
Leclerc il a dit aussi,
oui. Mais Joe Clear, il a pas de poste de direction.
Non, il l'a dit, ils l'ont tous pointé le problème.
Mais moi,
c'est les pneus.
J'ai juste une question pour vous, ça n'a vraiment pas aucun rapport avec la perfo de la voiture, mais vous pensez quoi des déclarations de Sainz qui se pose un peu en victime du monde Ferrari en mode je suis sous-côté, personne ne le voit. Enfin, genre, quand Leclerc fait un bon tour, tout le monde le dit. Ouais, quand moi je le fais, personne ne le dit.
Je vais pas être vulgaire. Il a un peu raison, mais je suis désolé. Si on parle en performance pure, non, il a pas un peu raison.
Ah oui, alors en rythme de course, il est loin, mais il est un peu dans le monde.
Non, moi je trouve on s'est planté dans le casting. On n'aurait pas dû le prendre.
Moi, je suis pas tout à fait.
Moi, j'aurais pris qui ?
C'est pilote 1 et pilote 2, moi, c'est tout. Moi, j'aurais pris qui ?
Ouais.
On a Tiffy ?
Si j'avais le choix, non, j'aurais pris un pilote comme Perez ou Bottas. J'aurais pris un des deux.
T'aurais pris Bottas ?
Wow. Ouais, j'aurais pris Bottas. Ah ouais, ouais, bien
gars,
sûr.
Mais
ouais, j'aurais pris Bottas.
Franchement,
ça serait Bottas ou Perez. Bottas ou Perez, j'aurais.
Ouais, mais Perez, il était déjà pris.
Ouais, il était déjà pris, donc je trouvais pas.
Moi, je suis absolument pas d'accord, parce que pour moi, Sainz, c'est un mec qui sait bosser. Depuis le début de la saison, il a une voiture qui est horrible sur le train arrière pour lui, parce que Ferrari est obligé de mettre énormément de train avant à cause de ses gommes Pirelli, d'ailleurs. Mais aussi parce qu'elle a des problèmes d'équilibre. La TD, ça n'a rien arrangé à cette F175 qui, du coup, n'a plus du tout d'équilibre. Donc ça, il est obligé de réapprendre à la piloter. Remarquez juste que les bonnes courses qu'il a fait, c'est des courses où il avait un aileron différent de Leclerc, c'est-à-dire un aileron arrière beaucoup plus chargé. Bizarrement, dès que tu mets dans des conditions comme ça, il performe. Dès que tu mets dans les mêmes réglages que Leclerc en équivalent, il ne fonctionne plus parce qu'il a besoin d'avoir une voiture qui s'ouvre. Il a besoin d'avoir une voiture qui est plantée, dont l'arrière est planté. Cette F175, elle n'est pas pour lui, il galère, mais au moins il bosse, il trouve des réglages. Moi, je suis désolé, je pense que il sait s'adapter, et j'espère juste que pour l'année prochaine, on va plus l'écouter dans le développement. Mais s'il continue de bosser et s'il influence le développement, j'ai confiance qu'en 2023, il reviendra.
Mais surtout,
aucun doute.
Surtout avec Sainz, on dirait que les week-ends où il a l'air vraiment d'être rapide, là, il lui arrive que des emmerdes, par exemple en France. Enfin, il avait le rythme, il avait un très bon rythme, mais bon, il avait la pénalité, etc. En Autriche, il n'aurait pas eu le DNF. Je pense sincèrement qu'il gagnait la course, il passait devant Leclerc.
Oh, à voir, mais... Il faisait 1-2, il était dans le rythme de Leclerc. Non, mais Autriche, très bonne course. Et d'ailleurs, il avait un élan plus chargé. Silverstone, il ne fait pas une énorme course, mais... Enfin, il n'est pas meilleur que Leclerc, mais il fait quand même une bonne course. Élan plus chargé. Canada, très bonne course, élan plus chargé. À chaque fois, dès qu'il a un élan chargé, dès qu'il a un réglage qui lui convient, c'est bon. Mais là, avec la TD, on n'a plus de réglage, en fait. Nos setups, on en invente tous les jours, c'est freestyle. Parce qu'on a trop de problèmes, donc voilà, on essaie de les résoudre.
Ouais, moi, je suis...
Moi, je défends
ça. Pour toi, le problème, c'est pas Sainz, c'est la voiture.
Pour moi, le problème, c'est pas Sainz fondamentalement. Le problème, c'est le mariage de Sainz et de la voiture.
Ouais, mais c'est pas le rôle d'un pilote de s'accorder avec sa voiture.
Si, tout à fait.
Je regarde Norris. Excuse-moi de... Désolé. Je rends Norris, et franchement, Norris, ce qu'il fait avec la McLaren, il a admis que la McLaren ne lui allait pas du tout. Et ce qu'il fait avec, c'est quand même incroyable comparé à ce que... Bah, il s'était coéquipé à l'ancienne, donc comparé à ce que Sainz fait avec une voiture qui est plus rapide, mais il n'y arrive pas, quoi.
Enfin, je suis d'accord. Sur la déclaration de Norris.
Parce sur le fait qu'elle n'y allait pas, qu'elle lui allait pas.
Ouais, parce que vu la différence de rythme avec Ricciardo, je sais pas comment il lui allait pas.
De toute façon, je suis partisan d'une bonne politique Mercedes-Red Bull. Pilote 1, pilote 2, c'est comme ça que tu gagnes des championnats. Ils l'ont prouvé, c'est comme ça que tu gagnes des championnats. Je te prends l'exemple simple de Red Bull. On va pas se le cacher ici, ils ont vraiment axé la voiture au Verstappen. C'est Pérez qui, tu me corriges Sofiane, mais c'est quand même Pérez qui doit s'adapter à la voiture, aux caractéristiques qui plaisent plus à Verstappen.
Mais c'est normal.
Résultat. Mais voilà, mais c'est normal. Et du coup, voilà, résultat, champion du monde. Ils sont P1, P3, bon, Pérez, il est repassé derrière Leclerc, mais vu la puissance de la voiture, pour moi, je pense que ça sera un miracle si Leclerc finit devant Pérez. Mais pour moi, c'est comme ça que tu gagnes des championnats. Et là, Ferrari, ils sont dans une situation où ils ont un pilote numéro 1, qui est Leclerc, et un pilote numéro 1 et demi, qui est Sainz. Et du coup, bah, ça crée de la confusion pour les ingénieurs qui vont concevoir la voiture. Ils disent, bon, on va l'axer comment, là, selon ses conseils à lui, ou alors selon ses conseils à lui, parce que tu as deux pilotes qui essayent de s'imposer, qui vont donc, forcément, quand la voiture va être à nouveau compétitive, ça va créer des frictions. Donc, pour moi, je préfère avoir la politique à l'ancienne qui est de pilote numéro 1 et pilote numéro 2 parce que c'est beaucoup plus efficace pour l'équipe. C'est tout. Moi, je sais, pour ça. Après, c'est mon côté aussi que je ne m'attache à aucun pilote. Du coup, moi, je pense juste à ce que l'équipe maximise les points aux constructeurs et au championnat. Et je trouve que c'est la meilleure politique. C'est celle qui a fonctionné pour Mercedes et celle qui fonctionne aujourd'hui pour Red Bull. C'est tout. C'est comme ça.
Mais d'ailleurs,
c'est celle qui a fonctionné chez nous aussi par le passé.
Par exemple, on disait que ouais, à Spa, ils allaient déterminer les numéros 1, numéro 2. Il n'y a pas eu de ça.
Bah, on aurait dû le faire. Et là, je vois aujourd'hui qu'on n'a toujours pas fait.
Ouais, mais vous ne l'avez toujours pas fait aussi à cause des...
Oui, bien sûr, il y a eu voilà, il y a eu, mais aussi il y a eu la grosse baisse de performance de la voiture qui fait que voilà, maintenant ça sert plus tellement à rien de faire ça. Mais pour moi, j'attends l'année prochaine. J'espère vraiment que Ferrari va établir sa hiérarchie avant que la saison elle commence.
Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais tant que ça gagne, finalement, je m'en fiche un peu.
Ouais, mais moi aussi, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui compte, c'est que Ferrari gagne. Je m'en fous du pilote qui apporte, mais quand je vois le rythme de course pur, je suis désolé, pas de débat. Pas de débat. Après, forcément, bien sûr, on peut regarder les chiffres, on peut regarder avec voilà, les points, etc. Il y a eu des abandons en jeu et tout, mais quand je regarde le rythme pur, je suis désolé, c'est comme ça.
Non, mais
mon choix, il est vite fait.
Je te comprends, je te comprends.
Mais chacun son point de vue, évidemment.
Les gars, Lucas, pardon, je te coupe parce qu'il faut qu'on avance sur Mercedes et après qu'on parle de la FIA, puis après qu'on laisse les gens intervenir s'ils ont envie d'intervenir. Tout ça, il faut qu'on le fasse rapidement. Malik, désolé, on t'a coupé pas mal de temps, mais parle-nous de ton week-end qui aurait pu bien finir.
Il aurait pu bien finir, mais il finit pas si mal que ça au final.
C'est vrai.
Parce qu'on avait peur de le Grand Prix d'Austin avec toutes ces bosses, la déformation de la piste, etc. Au final, la voiture a hyper bien réagi. Les pilotes étaient contents. Le paquet qu'ils ont emmené a donné satisfaction. Bon, c'est pris un refus sur un aileron avant, mais ça, vas-y, on en parlera. Le package a bien fonctionné, l'équipe était contente, ça a été des données pour 2023. Grâce à ça, on a éteint notre place en qualif, 5 et 6, de toute façon on ne peut pas espérer plus face à Ferrari et Red Bull. 5 et 6, c'était notre place, grâce aux pénalités, on part 3-4. Suite à le départ, les deux pilotes prennent un bon départ, que ce soit Hamilton ou Russell, après on se fait un peu coincé par Sainz au T1. Mais après la course, bah comme d'hab, notre rythme de course qui est supérieur, ce qui nous permet de remonter, de s'accrocher un petit peu. Et après, on a passé la stratégie. Quoi. Et de ce côté-là, tout a été bon. On pensait tenir la victoire. On s'est dit que Max va rester derrière Charles beaucoup plus longtemps que ça. Au final, non. Après, Max, voilà, bah, il a une fusée. Quoi. Que ce soit en ligne droite, enfin, les virages, c'est dur de le tenir. Mais un week-end qui finit assez bien.
D'ailleurs, sur cet aileron, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il était illégal ? Enfin, illégal, selon les FIA.
En fait, mais déjà, il y a eu des soucis que Mercedes n'a pas compris, c'est qu'eux, ils ont créé l'aileron sur ordi, ils l'ont développé, les FIA ont suivi le processus, ils ont accepté l'aileron. Une fois que l'aileron a été apporté au Grand Prix, les FIA ont fait marche arrière. Ils ont refusé l'aileron, et les commissaires techniques ont dit que pour eux, les nouveaux rivets que Mercedes a mis étaient beaucoup trop aérodynamiques. Et c'est interdit par le règlement. C'est que les flaps doivent être joints entre eux par des rivets. Sauf que là, les rivets étaient beaucoup trop gros et beaucoup trop inclinés vers la roue. Ah, du coup, ils avaient un rôle de rivet, mais aussi un rôle d'effet aéro. Ça, c'est interdit par le règlement. Du coup, les commissaires techniques ont refusé l'aileron. Mais dans tous les cas, l'aileron n'était pas censé utiliser ce week-end, vu qu'il n'était fait qu'en un seul exemplaire. L'équipe voulait l'utiliser que pour le Mexique. Du coup, pour le Mexique, on aura une version 2 de cet aileron avec des rivets un peu plus petits, mais qui auront le même mode de fonctionnement. Mais qui devrait cette fois-ci être légal.
Ok. Bah d'ailleurs, ça me permet. J'en profite pour te poser la question, vu qu'on parle technique. Il y avait des rumeurs comme quoi tu allais potentiellement avoir un design à la Red Bull l'année prochaine. Tu peux nous en parler un peu plus ou pas trop ?
Alors, de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, ça fait un paquet de mois que Mercedes travaille sur ce projet-là. Ça fait depuis la mi-saison le projet avec des pontons type Red Bull et dans les tuyaux, ça se dit, on l'a vu dans les journaux, etc. C'est pas anodin. Il se pose encore la question, mais ça pourrait voir le jour. Et Toto Wolff l'a confirmé ce week-end, disant que la prochaine Mercedes pourrait être différente visuellement, mais qu'elle garderait quand même l'esprit de celle de cette année, mais on pourrait avoir des surprises.
Donc, si on lit entre les lignes, c'est la fin du zéro ponton.
Bah, je les vois plus, je dirais, d'avoir un zéro ponton type Red Bull. Un mix des deux.
Ok. Okay.
Bah, ils veulent pas abandonner le zéro ponton, mais ils se posent aussi la question.
C'est marrant, je pense que vous êtes l'équipe qui peut potentiellement avoir la voiture la plus différente entre 2022 et 2023. En termes de design extérieur, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait et qu'on ne peut pas voir.
Annoncé,
ça va être marrant parce que Bon, globalement, les annonces, point, ça ne va pas avoir grand-chose, mais vous...
Gros point positif, on récupère Zeb Talisson. Enfin, qui est déjà revenu depuis un moment, mais là, il va être focus à 100% sur le projet 2023. Parce qu'il n'a pas bossé sur la voiture cette année.
Bah, on verra du coup ce que vous donnez en 2023 si on fait une bataille à 3 avec Red Bull. On va, enfin, en parlant de 2023, on va peut-être parler d'un sujet qui d'année en année ne change pas. C'est la FIA qui continue à faire n'importe quoi. On en a parlé au Japon vite fait, on en a parlé quasiment à toutes les courses. Mais là, il est peut-être temps qu'on arrête de bâcher salement comme ça. Quoique, en fait, c'est un peu compliqué parce que toujours le même sujet, la FIA continue d'être inconstante. Elle l'a montré sur les limites de piste pendant la qualif. Donc, il y a Verstappen qui est sorti des limites de piste et Guan Yu Zhou qui est sorti des limites de piste une autre fois, en plus de celle où il a perdu son temps. Et donc, dans les deux fois, ils ont parti les tours. Il y a eu la pénalité qui a été donnée à Alonso qui sort un peu de nulle part parce que Haas a fait réclamation plus tard, mais en même temps Haas a été pénalisé pour la même chose. Bref, toujours le même sujet d'inconstance. Vous en avez pas marre en fait? J'ai envie que cette saison termine.
Sortir de la FIA. Les gars, il faut faire la Super League mais version FIA.
Exactement, voilà.
Mais c'est Mais il n'empêche que Dimonte de Melo, il l'avait proposé et que franchement, ça devient de plus en plus une bonne idée parce que
ben
c'est
oui.
pas possible. Mais chaque débrief, on en parle. C'est un truc de ouf.
Mais c'est ça. En plus, on lui a rigolé au nez à l'époque. Il est fou, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Ben voilà, maintenant, pleurez tout le monde. Pleurez. Non, mais on le voit depuis des années que c'est depuis, allez, on va dire la mort de Charlie Whiting a un peu accéléré les choses, mais je trouve que c'est une fédération qui est totalement à la ramasse, qui a l'esprit déconnecté de la réalité et qui montre saison après saison qu'elle est en incapacité totale de pouvoir gérer un championnat toute la saison. Et du coup, quand ça ne va plus, quand ils sont têtus et quand ils ne veulent pas changer, bah, c'est la seule solution qu'il faut faire, bah, c'est quitter. C'est quitter, il faut utiliser la manière forte parce que si tu n'es même plus entendu et qu'ils ont leur propre bulle et qu'ils continuent à se faire des erreurs grotesques, insultantes, voire pour une catégorie reine comme la F1, bah, ce qu'il faut faire, c'est proposer d'autres projets en parallèle avec toutes les équipes parce que c'est plus possible, c'est vraiment plus possible.
Par exemple, en plus, tu vois Gasly qui s'était emporté sur la FIA la semaine dernière, aujourd'hui, hier, qui se fait pénaliser pour un truc. Alonso qui parlait tout le temps de la FIA, qui se fait pénaliser, voilà, comme par hasard, voilà. Enfin, je vois pas comment, enfin, par exemple, Alonso, comment il a encore l'envie de rouler. Enfin, moi, j'aurais même pas envie, à force de me faire pénaliser pour des trucs comme ça. Genre, vraiment, c'est tout simplement scandaleux. Enfin.
Ouais, je suis d'accord. Il y avait le Louis, qui est un des auteurs sur le sprint, qui voulait intervenir.
Ouais, les gars.
Ça va?
Salut. Salut, mec.
Ouais, les gars. Bah ouais, je voulais intervenir parce que forcément, genre... En fait, le truc avec la FIA, tu vois, c'est que c'est pas la première fois qu'on a ça. Et souvenez-vous, en 2021, c'était la même chose. Et en 2021, on avait un bout émissaire en commun, c'est Michael Masi. On était là, ouais, Michael Masi, n'importe quoi. Il fait des décisions de merde. On avait dit, genre, à Jeddah, ouais, Michael Masi. À Abu Dhabi, bah, il s'est fait défoncer. Et là, je vous dis, c'est un fan d'Hamilton qui parle. Michael Masi, les gens vont peut-être commencer à comprendre que c'était peut-être pas le problème. C'était peut-être pas lui le problème. C'était d'autres. C'était les autres, en fait. C'est le reste. C'est toute la FIA qui est responsable de toutes ces irrégularités. Et ça fait des années que ça dure. Alors, on peut dire que c'est la faute de X ou de Y, mais en fait, la faute, elle est globale, elle est partagée. Et tant qu'ils ne se diront pas ça, mais on n'ira nulle part.
Non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème. Si, vu que c'est un problème systématique, ça devient un problème systémique. C'est un problème qui dure, c'est un problème qui durera, et on peut râler autant qu'on veut. Ça va continuer d'être un problème en 2023 parce que il y a rien qui est fait.
Mais en fait le problème, tu vois, c'est que genre c'est là où on peut un peu se faire l'avocat du diable de la FIA, c'est qu'en fait on leur demande d'arbitrer de manière objective des décisions qui sont subjectives, tu vois. Genre
Ah, je suis pas d'accord. Alors oui, sur les incidents de course, oui, mais là, il n'y en a pas eu cette année. Et il y a des trucs quand même qui sont super méga objectifs et ils font que de la merde. Les sorties de piste, putain, on avait une règle qui était super claire en début de saison, plus personne ne respecte.
Mais les sorties de piste, je crois que t'as pas vu le fait que si tu me parles de la comparaison entre Zou et Verstappen, tu parles de ça ou pas?
Oui, mais je sais que Zou n'est pas. Je sais que Joe s'est pas fait pénaliser à cet endroit-là.
Il parle
mais...
de ce tour-là. Là, pour les sorties de piste, pour le coup, pour accorder le crédit, parce que ils ont fait cette année. Ils ont arrêté leur raid à la con l'année dernière, ça s'est détruisé. Enfin, même en 2020, et même enfin, depuis toujours. C'est, alors, à partir de virage 16, 17, 18, alors on va surveiller, mais pas après. Hein. C'était n'importe quoi. Ils ont dit les limites de piste, c'est les limites de piste. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair, net et précis. Et ce week-end, bah, à part ça, qui finalement en fait était faux, puisque Zou était bien sorti de la piste, alors que Verstappen, si vous zoomez très très bien, vous voyez qu'il a, il est tout juste. Mais si, tu le vois.
Bref, vas-y.
Les deux.
Non, mais attends, c'est comme.
Par exemple, c'est la route d'Adversapan pour une fois.
C'est comme cette saison à Monza avec Alonso et Leclerc.
Bah oui, enfin,
Alonso
a été
pénalisé pour un truc où Leclerc, il a rien eu.
Mais d'ailleurs, par rapport à ça, pourquoi on ne met pas des capteurs partout?
Mais je sais pas, je comprends. C'est cher.
Pourquoi on ne met pas des capteurs partout? C'est fin de l'histoire, c'est terminé. Tu mets des capteurs partout, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce débat.
Ouais, je
non, ouais, au moins, il a peur, c'est pas des êtres humains qui disent ouais, il l'a coupé, il l'a pas coupé, c'est direct. Voilà.
Non, tu vois bien, dans le tennis, on a ça, non? Genre sur la ligne.
Non, mais sur le tennis, tu peux faire ça sur un court de 200 mètres de long, mais sur un. Pas sur un.
Mais t'es la Formule 1! Mais t'es la Formule 1!
Les gars, avec la bonne volonté, on
y arrive. Vas-y, bonne chance.
Mais on y arrive avec la bonne volonté.
Non, mais faut arrêter. Comme les gens veulent faire. Si les gens veulent faire,
T'arrives à calculer le temps que fait une voiture familiale dans le circuit et t'arrives pas à mettre des capteurs.
Non, mais ça va. C'est pas non plus super dur.
Ouais, mais ça va, tu vois.
Non, mais c'est pas très compliqué. C'est juste vitesse moyenne.
Une voiture, tu fais ton temps et tu vois.
C'est pas très compliqué.
Ils ont juste pris un Renault Kangoo, on s'est roulé et puis voilà.
Non, mais je veux dire, pardon, mais tu développes des caméras dans des casques qui en temps réel t'envoient des images alors que le casque vibre de partout. T'es capable de faire rouler des F1 et d'avoir au millième près leur position, machin, etc. avec des GPS. Et tu me dis que t'es pas capable de savoir si la voiture elle a dépassé d'un centimètre la ligne blanche, mais frérot, arrête.
Ou alors tu fais comme Grosjean ou tu fais comme Villeneuve.
Attends.
Tu mets du gravier hein, ou tu mets des...
C'est ça.
D'ailleurs,
et même...
le gravier qu'ils avaient expérimenté là. Aux Pays-Bas, pour rappel, je ne sais pas, c'est
le faux gravier.
Je parle des graviers qu'ils avaient mis au virage à la fin du deuxième secteur,
ouais.
Qui avaient l'avantage de ne pas en mettre sur. J'explique pour les autres. Qui avaient l'avantage de ne pas. Le problème du gravier, concrètement, c'est que une fois qu'une voiture roule dans du gravier, il y a du gravier sur la piste. Et c'est pas bien. Et donc, du coup, ce gravier, il me semblait qu'il était dur. Et donc, du coup, il collait en tout cas sur, à la limite de piste. Et du coup, t'en avais pas partout sur la piste. Et c'était une innovation que je trouvais pas révolutionnaire, mais je me disais peut-être qu'enfin, ils vont avoir l'idée de se dire qu'on va mettre une vraie limite de piste bien handicapante et pas juste de l'asphalte.
Mais...
J'aimerais bien voir ça, en fait. J'aimerais bien que ça se concrétise. Donc, on peut le faire sur un seul piste, c'est cool, mais accélérer, c'est fait.
Mais pour revenir sur des trucs comme ça, les capteurs et tout, c'est pas forcément la F1, c'est les circuits, en fait. C'est les circuits qui doivent payer. Et les circuits, eux, ils n'ont pas le budget. Genre.
Ouais, mais c'est
des circuits, ils sont à deux doigts de la faillite pour payer le ticket en F1. Donc, non.
Ça, non, mais t'as raison.
C'est pas la F1, c'est les circuits.
Non, mais je suis d'accord. Mais n'empêche que cette inconstance de la FIA, que ce soit sur ces décisions-là, mais c'est surtout. Par exemple, truc tout con. Pourquoi Alonso est pénalisé de 30 secondes. Et pourquoi Perez n'est pas pénalisé? Alors, je vois bien les gens dire FIA boule, machin. Non, mais là, je veux juste un débat sérieux et constructif.
Bah, parce
pourquoi
parlant,
non, mais attends.
Non, mais ça, pour le coup, tu peux dire que les lettres de Perez, elles permettent pas de regarder derrière.
Non, mais attends,
non,
mais
objectivement parlant.
Non. C'était pas
Alpine, vas-y, explique.
Significatif.
Mais ouais, bien sûr. Non. Alpine, explique.
Significatif, c'est que. C'est le fait que la partie se détache, c'est dangereux.
C'est pas parce qu'il peut pas regarder en arrière.
Déjà, lui est concerné.
Ouais. C'est juste parce que la partie s'est détachée.
C'est genre quand ton truc flotte comme ça, là. Genre le bout de ton aileron, il flotte comme ça. C'est ça.
Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plus de
je l'apprends en même temps, je trouve ça. Du coup, si c'est vraiment ça, c'est honteux.
Mais oui, par exemple, il y en a qui ont fait le parallèle avec Leclerc à Silverstone, mais Leclerc à Silverstone, il perd son aileron direct. Quoi. Genre, il n'y a pas un bout qui bouge comme ça.
C'est ça que genre, c'est
ça, tu peux.
C'est ça,
tu le perds direct, tu peux. Tandis que là, ben, c'est comme si t'as un bout qui vole, quoi. Et normalement, c'est drapeau noir avec rond orange. C'est ça?
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Et
il a rien eu à Londres.
Pour ceux qui ont des difficultés avec l'arrêt de drapeau, je vous invite à aller voir le thread de la semaine. Très intelligent.
Le fait que Perez ait 0 secondes, je comprends pas.
Parce que tu peux dire que dans les deux cas, c'est irrecevable puisque As a posé réclamation.
Trop tard.
24 minutes après. Déjà, je comprends même pas pourquoi c'est 24 minutes. Ça n'a aucun sens, cette règle. Enfin bref, passons, c'est des règles dont tu es censé les respecter. Mais pourquoi Alonso est pénalisé d'un stop and go donc sur un temps, donc 30 secondes. Et Perez n'a rien alors qu'ils ont exactement eu la même chose. Enfin, t'es pas censé rendre compte de la taille de la pièce. D'accord, à partir du moment où une pièce, d'après le règlement, est en train de vaciller et en train de mettre en danger la vie des pilotes, elle est censée être.
Non, mais juste, on prend le précédent Magnussen.
Oui.
Et Magnussen, il a dû s'arrêter.
Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que t'imagines. C'est...
Mais tu sais, en fait, c'est l'IFIA qui fait de l'IFIA. Mais c'est l'IFIA qui fait de l'IFIA. En fait, ils ont pris leur drapeau.
C'est juste qu'à mon avis, il y a un agenda contre Alpine. Non, mais désolé, depuis le début de saison, je ne comprends pas les pénalités qu'elle pleut sur Alpine. Non, je ne comprends pas.
Alpine, vous êtes vraiment l'équipe la plus
vicieuse. C'est marqué Alpine à chaque tour. C'est un truc de
Pourquoi je me dis, une course qui va bien se passer. On a quoi? Alonso Miskin, le mec qui fait une remontée, la voiture elle est détruite. Il fait une remontée 7. Et il se fait pénaliser. Non, mais le mec,
je sais pas. Alpine, quand ils doivent prendre une pénalité de 10 secondes, ils vont prendre une pénalité de 40 secondes. Je sais pas pourquoi.
En plus, il y a un abonné.
C'est la French Touch. Ça, on n'y parle pas.
C'est raciste.
En plus, il y a un abonné sous mon tweet qui avait dit, quand j'avais dit qu'Alonso était pénalisé, il avait dit Ouais, vous inquiétez pas, il va se prendre une pénalité de 30 secondes.
Au moment même, il avait dit ça.
C'est pour rire, mais finalement, on l'a vraiment eu.
Mais c'est trop ça.
J'invite tous ceux qui nous écoutent là, qui ont envie d'intervenir sur ce sujet-là de la FIA, à nous rejoindre. Il y en a déjà un qui a l'air d'être fan de Lewis Hamilton au vu de son nom, Affalterback44, qui a une magnifique photo de couverture de Lewis Hamilton. Qui nous rejoint.
J'allais dire Ferrari.
Un homme de goût. Un homme
une
de
magnifique goût. Couverture de Max Verstappen, entendez.
Lewis Hamilton Ferrari. Ne m'a pas embêté cette saison, donc pas de problème pour moi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton ressenti sur ce sujet de la FIA?
Yes. Bonsoir les gars, bonsoir.
Ça va?
Salut.
Ouais, standing ovation.
Les gars, je suis monté en pression.
C'est un abonné fidèle, donc fais gentil avec.
Donc je vais essayer de parler. Calmement, ouais, c'était du n'importe quoi. Déjà la pénalité sur Stroll. Le gars, il a reçu 2 points sur sa licence. Et il pouvait tuer Alonso, les gars.
C'est du terrorisme.
C'est vrai que j'avais même pas parlé de ça.
Trois places pour le prochain Grand Prix.
Oussama Stroll Laden.
Trois places, c'est pas possible.
Non, c'est sûr.
C'est une blague, c'est comment c'est. Et surtout aussi, j'ai vu un tweet tout à l'heure, je sais plus c'était sur quel compte, donc désolé, je pourrais pas te faire de la pub, mais c'était un Américain, je crois. En fait, Gasly a reçu une pénalité comme quoi il a laissé plus de 10 voitures entre lui et la voiture de devant. Il a montré tout, sur son tweet. Il y avait plus de 12 pilotes qui avaient laissé plus de 10 voitures d'espace entre eux et la voiture de devant. 12 pilotes. Donc, comment ça se fait? Ils ont vu que Gasly, mais pas les autres.
Après, j'ai vu le truc sur les photos. Ouais, c'est environ 10 voitures. Mais après, sur la pénalité de Gasly, il y en a au moins 20-30.
Ouais, mais...
Il y a la grosse ligne droite.
Je suis pas d'accord sur ça. Déjà, sur
Pérez, on voit plus les voitures devant.
Au Singapour, le gars, il prend en fait, il fait ça deux fois après. Après, il prend une pénalité. Là, Gasly, direct. Comment?
Non, mais c'est vrai, c'est sélectif. C'est trop sélectif.
En fait, regardez. Bon, mes amis, les Ferraristas, je ne sais pas comment on vous appelez. Je préfère que vous...
Les tifosi.
Voilà, les tifosi, exactement. En fait, pour moi, la FIA, c'était un peu comme Ferrari, où j'ai l'impression que tout le monde pointe du doigt à quelqu'un d'autre, mais en profondeur, quand vous regardez en profondeur, bah, c'est tout le monde qui a des soucis, vous voyez. Donc, j'ai l'impression de voir la FIA comme un peu Ferrari. Mais
ouais, c'est une belle comparaison.
Mais c'est vrai, c'est même pas genre pour tirer
c'est vrai.
Gratuitement pour.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord.
Tu vois, c'est vraiment pas pour gratuitement, mais vraiment, je vois la FIA comme ça, quoi. Lui, il pointe sur lui, tranquille, à Suzuka, Max devient champion. Il n'y a personne qui est au courant de cette règle. Après, ils ont été chercher dans le fin fond du règlement. Après, ils ont appliqué la règle. Oui, mais c'était franchement. Moi, j'étais sur F1 TV, donc j'ai écouté Monsieur Vigneron. Il est là, il dit même, c'est quoi? On n'a jamais vu ça. Le gars, il est consultant depuis je ne sais pas combien d'années, quoi. Donc, c'est un truc de fou. C'est vrai que l'année passée, on s'est tous plaints de Masi parce qu'ils ont mis un visage sur la FIA. Vous voyez, et c'est comme par exemple toute la F1 est en train de comment dire ils sont sur Ferrari, genre ouais, c'est le gars de la stratégie, etc. Oui, peut-être il fait de la merde, mais il y a 1000 personnes dans cette équipe, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est
Je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème dans cette fédération et c'est ça fait trop longtemps que ça dure. C'est vraiment vraiment problématique.
Bah, il a mis le doigt sur le gros problème qui est en fait l'organisation, la structure même de la FIA qui fait qu'aujourd'hui elle est totalement dépassée.
Ouais. Déjà, franchement, qui peut me citer, il y a combien de personnes à la FIA? Dites-moi, il y a combien de personnes à la FIA?
Je sais pas.
On sait même pas nous-mêmes.
Voilà.
Ben Sulayem, c'est bon.
Ouais,
non. Mais c'est le seul nom qu'on connaît.
240 membres. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est les pays membres, pardon, j'ai n'importe quoi.
Mais après, on critique la FIA. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions pour régler ces problèmes? C'est quoi les solutions?
Ben, attendez,
demain, c'est une course sans problème, sans qu'il y ait ce genre de pénalité à la con.
Ben, demandons l'avis, parce que nous, on en parle souvent de ces sujets-là. Peut-être on peut demander l'avis aux personnes qui sont venus dans le space. Je peux déjà commencer par Kimi512, si t'as un avis là-dessus.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Salut.
Alors, j'ai un avis, mais bon, je pense que déjà, la FIA, à chaque fois qu'il y a un problème, ils ont la solution de facilité de, tiens, je vire quelqu'un, je vire la face du problème. Mais c'est la face officielle, ça. Ça, c'est pareil. Au Japon, c'est Eduardo Freitas qui a tout pris. Mais bon, il n'est pas tout seul non plus. Même si, forcément, c'est lui qui décide qu'il a sa part de tort. L'an dernier, on a bien vu que virer Masi n'a rien arrangé. Donc, il y a d'autres problèmes. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Franchement, je suis Alonso. Là, tu te prends une pénalité de 30 secondes après la course que tu as fait, tu repars dernier, tu te prends un gros crash et tu fais tout ce que tu peux pour revenir dans les points et tu te fais disqualifier. Mais franchement, je leur crache à la gueule. Sans déconner, je ne sais même pas comment il fait. Il a quand même plus de 40 ans, il a sa carrière qui est plus derrière lui que devant. Franchement, rien à foutre, je leur crache à la gueule. Mais complètement. Ces mecs-là, mais ils se foutent de la gueule de tout le monde. Je suis désolé, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est la quatrième course de suite où il y a des polémiques. C'est en Formule 1. Je suis désolé, c'est une vraie honte. C'est une honte.
Comme j'avais dit, je suis Alonso. Enfin, j'ai pas de goût à la F1 quand je vois ça. Enfin, tu peux tout faire.
Ouais.
Finalement, à la fin, ben, tu fais pénaliser. Voilà.
Franchement.
Je sais pas qui a mis ça, mais bien joué.
C'est qui a mis ça?
Je sais qu'Alonso, il a un peu Une aura, on va dire, un peu, soit il est très, très aimé, soit il est détesté. Mais au-delà de ça, il faut quand même applaudir ce qu'il a fait hier, parce que repartir avec l'accident qu'il a eu, le couteau entre les dents pour remonter, finir septième, franchement, c'est chapeau, quoi. Il n'y a rien à dire. Et plutôt que d'encourager ça, la FIA, mais elle encourage quoi là ? C'est plus de la course auto, je suis désolé, c'est que de la politique. Je peux plus aimer cette Formule 1 là. J'en ai plus. Je le dis carrément, j'en peux plus. À chaque fois, chaque course, et des polémiques comme ça, ça devrait pas être. Faut vraiment se remettre, comme vous l'avez dit, Pérez, il n'y a pas de problème. Alors forcément, As, pourquoi As, ils ont porté réclamation parce que eux se sont vu infliger des drapeaux noirs et oranges, donc ils ne comprennent pas pourquoi que eux ils prennent des arrêts au stand et que les autres n'en ont pas. Donc c'est logique, hein. Mais ça devrait pas. Tout le monde devrait être logé à la même enseigne. Il devrait y avoir des règlements notés noir sur blanc sur tout ce qui se passe. Point barre. Et c'est pareil pour le budget de cap. On peut en parler, mais le budget de cap, toutes les équipes se sont réunies. Il aurait dû y avoir un règlement pour dire si une équipe dépasse le budget de cap de 0, par exemple, à 5%, il y aura telle pénalité qui va tomber, et au-dessus de 5%, ce sera telle pénalité, point barre. Là, il n'y a apparemment rien, aucune sanction qui a été prévue. Mais ils mettent des réglementations, mais il n'y a aucune sanction qui est prévue. Comment voulez-vous que ça soit géré comme il faut ? Alors forcément, des fois, c'est un peu suivant la journée, s'il gagne, est de bonne humeur ou pas, donc... Enfin, bref, c'est n'importe quoi.
Moi je vote Kimi 512 en président de la FIA, s'il vous plaît.
Je vote aussi.
Ouais. On est tous d'accord avec toi, je crois.
Moi, je suis complètement d'accord. Les termes ont été énoncés ce soir.
Les gars, juste pour terminer, parce qu'il faut qu'on conclue ce space, je voulais juste donner la parole à iSub. Je sais qu'il y a d'autres gens qui voulaient monter, mais il faut qu'on clôture ce space.
iSub, surtout qu'on récupère un peu de sommeil.
Ouais, tout à fait. iSub, si tu veux nous donner le mot de la fin, et puis on conclura ainsi.
Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, je suis du même avis que Kimi 512. Je pense qu'on doit réécrire une nouvelle réglementation, parce qu'à chaque fois qu'il y a une réglementation, c'est alinéa, point B, point C, point D, et tout le monde se perd. Aujourd'hui, je pense que la FIA doit se réunir les pilotes ou les professionnels de l'automobile et refaire, un règlement, quoi, au bout d'un moment, parce que tout le monde se perd. Quand on voit que Pérez, il met 30 voitures à Singapour et qu'il est pénalisé 4 heures plus tard, pour 5 secondes, et il a 3 réprimandes en tout temps, et que Gasly, c'est à l'instant T, on en a marre, quoi, de regarder la Formule 1. Je suis la Formule 1 depuis près de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai plus envie de regarder, quoi. Bon, je suis tifosi, d'accord, depuis Schumacher. J'ai commencé à aimer la Formule 1 avec lui. Mais au bout d'un moment, quand on voit comment certaines équipes sont favorisées que d'autres, on leur tape dessus, t'as plus envie de regarder.
Non, mais totalement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai clairement une baisse de passion vis-à-vis de la F1 depuis quelques cours.
Ah oui, mais
c'est la FIA qui l'a créé. Hein. Moi, je suis désolé, les gars. C'est que la conséquence. Hein.
Mais Gasly
qui a créé tout ce bordel, hein.
Mais complètement. Mais Gasly, on sait pourquoi il est pénalisé, parce qu'ils n'ont pas aimé la réaction qu'il a eue. On sait très bien, il est dans l'œil du cyclone désormais. Donc,
bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est bien, c'est qu'on a évangélisé, ou peut-être pas en fait. Peut-être que c'est la FIA qui a évangélisé tout seul une communauté de gens qui détestent cette fédération. Et c'est vraiment triste que ce soit elle qui gère notre sport. Enfin, franchement, ça me rend super triste, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on pourra faire un énorme space en fin d'année.
Je comprends pas pourquoi les équipes et les pilotes ne se réunissent pas et qu'ils disent on en termine une bonne fois pour toutes. T'as des pilotes, c'est pas aux jeunes pilotes de prendre les devants. Il y a des pilotes comme Vettel, Alonso, Hamilton, ces pilotes-là, même Pérez, Bottas, ils sont là depuis plusieurs années. C'est à eux de prendre les devants, de dire on en a marre de piloter dans des conditions pareilles, parce qu'on ne sait pas, à un moindre truc, on peut se faire pénaliser pour n'importe quoi, on ne peut même pas le savoir. Donc, à des moments, ils doivent être aussi soutenus par leurs équipes, parce que forcément, les équipes, je pense qu'ils passent un peu derrière pour dire « Oh, mais râlez pas trop, parce qu'après, on risque de se faire mal voir. » Donc, forcément, je pense que ça empêche certains de trop râler.
Mais c'est à eux de se réunir. Là, je trouve que tout le monde regarde juste son nombril. Et forcément, s'il n'y a pas une solidarité envers les équipes et les pilotes, forcément, la FIA et toute puissante, pour eux, ils ne risquent rien. Ce sera comme ça.
Mais c'est une très très bonne fin. Merci beaucoup. Franchement, c'est une très très bonne fin. Et t'as entièrement raison. C'est vrai que c'est eux qui ont un énorme pouvoir d'influence. C'est à eux de prendre les devants. Non, mais je suis d'accord.
Non, mais il y aurait eu un mec comme Bernie Ecclestone, il n'y aurait jamais eu ça.
Ouais. Ouais.
Faut une révolution. Sortons de la FIA.
La question, c'est. Est-ce qu'une équipe de Formula 1 est plus puissante que la Formula elle-même ? Formula 1 elle-même, en fait.
Bah, à l'époque...
Si toutes les équipes se mettent ensemble, oui.
Hey, oui. Les gars, franchement, je pense qu'on se rend pas
désolé,
compte.
Oui.
Surtout si on prend les trois plus grosses équipes, si on prend rien que Mercedes, Ferrari, Red Bull, pour moi, c'est déjà plus puissant.
Que rien que Ferrari en elle-même. Mais
les gars,
ouais.
Ferrari, c'est...
Ferrari, c'est qui Ferrari pourrait juste menacer de partir, mais là, il se chie.
En fait, c'est ça. En fait, Ferrari dégage de la F1, la Formula 1 est éclatée.
Elle est morte.
C'est fini. Alors, je ne demande pas une révolution, mais je pense qu'ils peuvent vraiment jouer là-dessus. Et quand, franchement, les gars, quand vous recevez une amende parce que vous avez fait un excès de vitesse, est-ce que vous avez un accord avec l'État ? Non, mon gars, t'as fait un excès de vitesse, tu vas payer coûte que coûte. On va peut-être venir chez toi chercher tout ce que tu veux, mais on va te prendre cet argent-là. Et moi, quand je vois la FIA avoir un accord avec Red Bull, je me dis, mais what? Mais comment tu peux avoir
accord ça,
pour ça?
Même ça, c'est la FIA qui modifie le règlement du budget cap juste après la saison. Enfin, on ne comprend pas comment tu peux modifier les règles juste après que la saison elle est finie. Enfin,
ouais, alors juste un truc concernant l'accord en tant que tel. Concernant ça et l'accord avec Ferrari 2019, je remets juste les choses au clair. L'accord avec Ferrari 2019, c'était pour protéger les propriétés intellectuelles de Ferrari.
Exactement.
L'accord qu'il y a en ce moment avec Red Bull, c'est parce que ce sont des protections de données financières. C'est un statut légal, c'est comme ça. Il n'y a pas d'accord secret, puisqu'en fait, il va être divulgué. Et c'est juste des négociations sur la pénalité qui est prise. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, dans l'extérieur, on trouve que c'est de la magouille, mais que toutes les équipes ont voté et étaient d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont signé le budget de cap, tout le monde était d'accord.
Moi, c'est donc, pas de ce point de vue-là que je dis, c'est que si tu as dépassé, bah, t'es sanctionné. Peu importe de comment, je m'en fous de ça. Mais si t'as dépassé, il n'y a pas d'avoir d'accord, en fait.
Non, mais je suis d'accord. Et en plus, et la pénalité devrait être connue de tous. Elle devrait être choisie et connue de tous. Là, tu vois la FIA qui dit « Oh ben, on va regarder la pénalité qui sera le plus à même d'être...
Ouais, » C'est la foire.
C'est pas normal. La pénalité, on va être choisie dans le
coup. C'est la foire, ça. Tu peux pas. Normalement, tu dépasses pas. Moi, ce que je ferais, c'est genre, tu vois, t'as dépassé de tel pourcent, hop. Normalement, si t'as de l'ordre un peu dans tes papiers, tu vois, OK, t'as tout un document qui dit « Tu dépasses de 2%, bah, t'as ça comme pénalité. Tu dépasses de 5%, bah, t'as ça comme pénalité. »
Non, mais
ça
aussi,
devrait être écrit noir sur blanc.
Non, mais sinon, par exemple, tu dépasses de 2 millions, bah hop, tu perds 4 millions sur ton prochain budget. Là.
Mais oui, mais oui, voilà, mais ça devrait être écrit noir sur blanc. Il devrait y avoir des papiers.
Mais
pour
c'est
ça. Et là, la FIA a l'impression qu'elle n'a rien. Elle n'a rien.
Mais oui, et surtout, tu modifies les règles en plein milieu, il n'y a pas de constance.
Il n'y a rien. Rien, on dirait que c'est moi qui prépare mes devoirs.
Mais non, il n'y a aucune règle. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune règle qui est écrite noir sur blanc. Et c'est comme le problème. De Abu Dhabi l'an dernier, c'est que Red Bull a aussi joué sur un mot qui a fait que ça a tourné dans la balance et qui a fait que Mazine était hors de la l'interprétation du règlement, mais il était en même temps dans le règlement. C'est parce que dans le règlement, c'est marqué Any au lieu de All pour dépasser. Et ils ont joué là-dessus. Donc voilà.
Il y a aussi un article qui annule tous les articles en mode Massi peut faire ce qu'il veut s'il pense que c'est nécessaire. Du coup,
ok. Ouais. Les gars,
c'est l'anarchie.
Les gars, il faut qu'on s'arrête là. Je suis navré, mais d'autre manière, vous serez bien évidemment les bienvenus pour reparler de la FIA. On fera un énorme space sur eux, vous inquiétez pas.
Pour les limites de piste, je voulais juste dire, Charles Leclerc avait pour moi une bonne idée, c'est de dire les limites de piste sont après les vibreurs. Et pour moi, ça simplifierait encore plus les choses. Et je pense qu'il avait raison là-dessus.
Ça peut être une idée qu'on peut reprendre.
Ouais, c'est une idée. Pardon. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est qu'on s'arrête là pour ce soir. On reviendra sur un space, bien évidemment, après le Grand Prix du Mexique. On ne sait pas encore si on le fera juste après ou si on le fera le lendemain. Vu que ça se finit tard en ce moment, peut-être qu'on le fera le lendemain.
Il faut qu'on dort, là, parce que...
Ouais, je suis d'accord. Mais il reste que trois courses, donc on va quand même en profiter pour ceux qui peuvent encore en profiter. Pour ceux qui, pour qui c'est de la survie, bah bon courage. Et puis après, on aura des bonnes vacances pour nous reposer et on reviendra.
J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous publierons au moins un épisode de la Call Room par Grand Prix et dès que l'occasion se présente, nous publierons un épisode des bruits du paddock. Suivez-nous sur Twitter et venez débattre avec nous. Nous partageons notre passion pour la Formule 1 et pour nos écuries respectives sans aucune langue de bois et en vous donnant toutes les dernières informations. On se retrouve très bientôt sur le sprint, très bonne journée à tous et à bientôt.